question sur la représentation. On vit une crise de la représentativité en France, que ce soit dans le monde politique, mais les syndicats, les organisations patronales. Est-ce que, puisque vous fonctionnez comme une société dans la société, avec des élections, etc., est-ce qu'au sein de l'Église, vous vivez aussi cette forme de crise de la représentativité, peut-être des postes comme les vôtres ou du président de la conférence des évêques qui seraient remis en cause, moins légitimes qu'avant. Voilà. Est-ce que c'est un mouvement qui vous traverse? Et une deuxième question sur l'écologie. On voit, et moi en tout cas c'est comme ça que je le vis aujourd'hui et je l'analyse, beaucoup de nos jeunes qui se radicalisent, qui en fait, l'écologie, j'ai l'impression que c'est une nouvelle religion. Comment au sein de l'Église vous la voyez? Comment vous placez l'homme par rapport à la nature? C'est vrai qu'on a beaucoup, et l'Église c'est beaucoup l'homme dans, voilà, parmi les hommes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit l'Église, mais que ce soit toutes les autres religions, n'ont pas un rôle à jouer pour replacer un peu l'homme dans la nature et peut-être, je préfère que peut-être nos jeunes soient dans la religion, on va dire, encadrés plutôt que seuls à essayer de trouver un sens à leur vie.
Merci beaucoup pour ces questions. Je vais essayer du coup de faire des réponses rapides, si j'y arrive. Je vais pas être bavard. Je commence par la dernière, l'écologie. En effet, je dirais deux choses. C'est un sujet qui divise aussi. Et donc, je pense qu'en effet, c'est pas forcément un sujet qui... Il y a des perceptions très différentes de l'écologie. J'ai lu un bouquin très intéressant sur l'écologisme de Durieux, là, cet été. Lui-même qui petit-fils d'agriculteur, on n'a pas trop à lui expliquer, je pense. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Il dit c'est protéger la nature, parce que ça va très bien les agriculteurs, parce qu'en effet, tout à fait, c'est, et donc pour nous, c'est aussi un vrai sujet de. Tout à fait, je pensais pas un sujet d'unanimité, et heureusement qu'il y a du débat. Et là. Maintenant, merci vraiment de cette question parce que la manière dont l'Église perçoit l'écologie, c'est l'écologie intégrale. Et donc l'écologie, en effet, qui prend soin de la nature et au sein de cette nature, c'est le récit biblique de la Genèse, le sommet de la création, c'est l'homme. Et pour nous, c'est pas... Le sommet de la création, c'est l'homme. Et c'est bien cette écologie intégrale qui dans Laudato Si, ce qui est intéressant, c'est que il parle du cri de la terre, mais aussi du cri des hommes. Et donc c'est en effet pouvoir honorer et travailler cette question de la dignité de l'homme, du respect de l'homme, du début de sa conception à sa fin. Voilà, donc ça rejoint bien aussi les problématiques aujourd'hui de loi politique, etc. Enfin, voilà, donc c'est vrai que l'écologie intégrale qui met le... Vous voyez, par exemple, là, à l'Assemblée plénière, et ça, je rejoins du coup la deuxième question, et ça, je vais répondre, sur la question de la représentativité, ça répond peut-être pas directement à la question, mais en tout cas, depuis un an, l'Assemblée plénière, j'ai dit que c'était tous les évêques de France qui se réunissent, depuis un an, on associe... dans une démarche un peu synodale, c'est-à-dire en associant d'autres personnes que les seuls évêques, des laïcs pour la réflexion. Donc, je vous l'ai dit au début de mon intervention, je pense qu'il faudrait mieux rendre compte de nos propres fonctionnements. En tout cas, là, pendant un jour et demi, dans deux semaines, normalement, on espère, il y a 300 personnes qui se réunissent à distance, mais qui se réunissent à Lourdes avec des agriculteurs, des hommes, des femmes, des religieuses, voilà, sur ça. Et du coup, on a nommé, au début, c'était que les agriculteurs, on dit non, ça va pas. Voilà. Et donc, on a intitulé notre séquence cultiver la terre et se nourrir. En effet, sur l'écologie, la question écologique, mais il y a la question de la famine qui augmente, bref. Donc la question de la représentativité, après, oui, elle peut exister. Il y a des choses qui sont intéressantes sur un mouvement qui s'appelle, par exemple, aujourd'hui, Promesse d'Église. Ce sont plusieurs mouvements qui réfléchissent aussi, qui contribuent à notre réflexion, de mouvements qui vont du Secours catholique à des mouvements à la communauté de l'Emmanuel, à d'autres, pour réfléchir, pour contribuer un peu à une réflexion globale. Après, la question de la représentativité, c'est vrai qu'on on touche un petit peu, peut-être, dans des questions sur le ministère régulièrement la question, et se pose la question d'un certain nombre de fidèles, de dire, mais pour pourquoi, par exemple, des femmes ne pourraient pas être prêtres ou ne pourraient pas être évêques. Voilà. C'est vrai que dans la tradition catholique, moi j'aime bien dire dans le christianisme, il y a plusieurs traditions. Moi, je m'inscris dans celle catholique, je m'y sens bien. Dans d'autres traditions, mais dans le protestantisme, tout le monde ne peut pas être pasteur. Hein. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des femmes, mais tout le monde ne peut pas. Voilà, il faut une formation, il y a une mission qui est confiée, ils sont même à laisser pendant un an. Voilà, donc, enfin, voilà, la connaissance justement des religions est très importante. C'est vrai que sur cette question-là, par exemple, de représentativité, en tout cas homme côté, mais voilà, c'est une vraie question. Et je le disais tout à l'heure, c'est sûr que, enfin, moi, j'ai le sentiment que dans notre vie quotidienne, la parité, on la vit depuis très longtemps. Moi, dans le diocèse Nanterre, ça fait 25 ans qu'au conseil épiscopal, donc le conseil proche de l'évêque, il le voit tous les mois, derrière, homme-femme, voilà, complètement réparti. Mais par contre, voilà, dans la représentation qu'on donne aux compétences du cléricalisme, hein, qui traverse aussi notre... Alors, le cléricalisme, il peut être le fait de prêtre, il peut être aussi le fait de laïc, ça, le pape aussi le dit bien, et nous le constatons toujours. Alors, en fait, le cléricalisme, c'est l'excès de pouvoir. Et ça, l'excès de pouvoir, ben, chacun d'entre nous, voilà, c'est un risque, c'est une tentation, c'est un risque, c'est... Voilà.
Donc, quand vous dites que ça vient de laïc, ça veut dire que c'est le laïc
oui,
eux-mêmes
voilà.
Exactement. À la personne,
c'est ce que je dis. Tout à
rôle,
fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci de la précision. Ouais. Je pense que le laïc, bien sûr, il est aujourd'hui, souvent on peut désigner les prêtres ou les évêques ou même le pape qui peut être parfois trop clérical, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être aussi effectivement laïcs qui utilisent mal. Voilà, l'autorité que nous avons, parce qu'il y a une vraie autorité qui nous est confiée. Dans notre foi, par Dieu, par l'Église, c'est une autorité de service. Le Christ dit, je vous donne autorité aux apôtres, donc par la suite aux évêques et à nous, et puis à chaque baptisé, mais c'est une autorité qui soit de service. Le jeudi saint, quand Jésus, au moment de quitter les siens, institue l'Eucharistie, le sacrement à source de l'Église catholique, il se met à laver les pieds des disciples. Donc voilà. Après, faut le traduire. Hein. Voilà, ça, c'est le chemin de conversion de chacun d'entre nous. Et on ne dit pas qu'on fait ce que Jésus nous demande de faire. Mais voilà, en tout cas, l'autorité, elle est de service. Elle se vit en particulier dans cette autorité, vous voyez, qui n'est pas surplombante, mais qui se met. Et en même temps, il y a une vraie autorité et qu'il s'agit, à mon avis, on parle de synodalité dans l'Église, marcher tous ensemble. De collégialité, c'est un travail entre les évêques ou entre des groupes, voilà, tous les conseils, la collégialité, et troisième pilier aussi, j'ai dit tout à l'heure trois images de l'Église, mais on pourrait dire aussi autrement, la collégialité, tous ensemble, enfin, la collégialité, donc, voilà, la synodalité, donc synodalité, pardon, tous ensemble, la collégialité, quelques-uns, et la primauté, c'est un seul. Et le pape François, il parle beaucoup de synodalité, il la vit, mais il exerce aussi beaucoup sa primauté, y compris dans des décisions qui ont pu affecter l'Église de France, qui à ses yeux n'était pas tout à fait conforme, a pris une décision qui, à mon avis, était passée, qui n'honorait pas suffisamment, à mon avis, la collégialité.
Je ne sais pas si c'est, voilà. Si c'est compris ce que vous dites là.
Dites-moi, je ne comprends pas.
Mais merci de votre exposé, j'ai une question.
Ouais.
La première, j'aimerais savoir quelles sont vos relations avec les différentes religions, judaïsme et islamisme, aujourd'hui, qui me préoccupent. Face à l'antisémitisme qui est énorme, quelle est la position de l'Église? Car cela m'inquiète énormément. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Les relations avec les autres religions, elles sont habituelles. D'abord, alors là, on parle de la conférence des évêques. Je voulais juste dire qu'au niveau des diocèses, puisque nous, ici, on est au service des relations... Lotement. En tout cas, elles sont. Moi, je parle d'un département que je connais bien, en Île-de-France. Les relations, elles étaient fréquentes avec les communautés juives qui étaient présentes sur le département. Dans chaque diocèse, il y a un prêtre ou un laïc avec une équipe qui est en mission au nom de l'évêque pour les relations avec le judaïsme, comme pour les relations avec. Vous avez des relations différentes, comme des relations avec. Avec pour l'unité des chrétiens, avec les protestants, les orthodoxes. Donc ça, localement et au niveau national, ici, il y a Vincent Feroldi qui est responsable au niveau national des relations avec les musulmans. Il y a Christophe Lesourd qui vient d'être nommé, qui est un prêtre avec toute une équipe qui entretient les questions de relations avec le judaïsme qui sont des relations très différentes que nous avons dans la liturgie et empreinte du judaïsme. Donc on a une relation tout à fait enfin, essentielle, nécessaire avec le judaïsme, ce que nous n'avons pas dans notre ADN avec l'islam. Bien sûr, j'allais dire, on n'a pas besoin d'eux, vous comprenez ce que je veux dire. On a besoin d'eux parce qu'ils sont là, et voilà. Mais je veux dire, dans notre foi, bon, voilà. Donc ça, c'est tout à fait essentiel.
Bien sûr.
Voilà, vous avez raison. Bon, en particulier le texte de Vatican II, Nostra Aetate, tout ce qui a été fait depuis sur une connaissance, une plus grande connaissance. Le fait que depuis le Vatican II, on ne dise plus que c'est le peuple juif hein, qui a tué Jésus. On parlait du peuple d'Isside aujourd'hui. Enfin, donc il y a eu des efforts faits, mais vous avez raison, nous sommes nous-mêmes très inquiets dans les diocèses, un grand nombre de personnes d'un côté juif qui sont obligées soit de quitter leur département, ce qu'on m'a dit la semaine dernière, pour choisir une autre ville au sein même du département, et ça dans beaucoup de diocèses, ou de quitter la France pour aller... Alors, il peut y avoir des raisons religieuses et de foi qui sont... Mais il y a d'autres raisons qui sont contraintes. Et ça, en effet... Alors, là aussi, parce qu'on a des relations d'amitié et d'estime les uns envers les autres, que lorsqu'il y a quelque chose de très grave qui se produit, eh ben, à ce moment-là, et ce n'est pas que des mots, immédiatement, on peut se manifester les uns les autres et faire des déclarations. Parce que nous faisons de temps en temps des déclarations, on en a encore fait... une la semaine dernière, évidemment, hein, quand il y a côté juif qui est attaqué dans un zone, eh bien, à ce moment-là, l'évêque du lieu, il met une déclaration, nous nous associons. Et moi, Christophe Le Sourd, voilà, m'a dit, tiens, bah, voilà. Donc c'est vrai que c'est... Mais c'est après, voilà, face à l'argent aussi, des questions qui ne nous appartiennent pas complètement, de droit, de sécurité. Mais,
merci. Voilà, ouais.
Quels sont vos liens avec le Vatican et avec
Alors
le
oui,
Est-ce que vous avez une certaine indépendance? Vous parlez de commission sur la doctrine et la liturgie, par exemple.
Ouais.
Jusqu'où va l'indépendance de l'Évêque de France?
C'est très bonne. Alors, je vais. Alors, le Vatican. Ah, d'abord, je vais parler un mot du pape, hein, voilà, comme serviteur des serviteurs, c'est-à-dire au service de tous les évêques. La relation au. On va voir le pape et ses différents services, puisqu'en gros, il y a les mêmes commissions au niveau du Vatican qu'au niveau de la conférence des évêques que dans un diocèse. Hein. Alors, il y en a moins dans un diocèse, mais dans un diocèse aussi, localement, il y a des gens pour s'occuper au service des paroisses. Voilà. Donc, toutes ces structures se retrouvent aux différents niveaux. Ce sont des questions. Alors, dans l'histoire de France, hein, les relations avec le Vatican ont été parfois de grande proximité, parfois de grande distance. Bon. Mais, en tout cas. On va voir le pape une fois par an, la présidence et le secrétaire général, pour, ça sera au mois de décembre, pour rencontrer le pape et pour lui présenter les sujets actuellement de l'Église de France, lui dire les difficultés que nous avons avec certains de ses services, parce que parfois on peut avoir des difficultés avec les services du Vatican. Je vais pouvoir prendre un exemple. Hein. Et voilà. Après, les relations plus quotidiennes, elles se font par le nonce, ce qui est le représentant donc, du pape dans chaque pays, enfin dans beaucoup de pays. Et ils ont une très bonne diplomatie, d'ailleurs, à travers le monde, hein, qui est très, 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 très riche. Et donc, après, il y a aussi, dans les relations, un peu pour vous dire concrètement, il y a ce qu'on appelle les visites ad limina, aux limites. Donc, aux limites du monde, qui étaient, voilà, aux limites. Donc, et donc, ça, ce sont les évêques du monde entier, les 5000 évêques, qui vont, accompagnés de quelques personnes, ayant fait un rapport à Rome. Moi, j'ai dû les préparer deux fois de suite. Simplement, dire la situation d'un diocèse dans le monde. Voilà. Diocèse d'Haïti, diocèse de Paris, de Boston, eh ben, ils vont envoyer à Rome tous les 5 ans un rapport. Et après, deux mois après l'envoi de ce rapport, les évêques concernés vont à Rome, rencontrent le pape pendant 1h30. Maintenant, c'est très bien, c'est pas de topo, parce que normalement, les gens ont lu le rapport, mais du coup, c'est de l'échange. Et pendant cette visite, donc tous les 5 ans, même si pour des contraintes, parfois, ça peut être un peu moins, mais normalement, c'est tous les 5 ans, eh bien, les évêques, en groupe, hein, parce qu'ils vont en province, voilà, on a des... Eh bien, rencontrent aussi tous les services du pape. Après, je vais prendre un exemple que j'avais commencé, par exemple, la question du... ce qu'on appelle la ratio, c'est-à-dire, aujourd'hui, comment former des prêtres ? Question essentielle, qu'il faut souvent se reposer, de la même manière que l'exemple que j'ai pris. Aujourd'hui, on ne forme plus un prêtre de la même manière qu'il y a 50 ans. Génération complètement différente, connectère, hein, quand ils reçoivent un jeune qui est tout le temps connecté, ou, bref, voilà, il y a des questions nouvelles. Donc, quels sont les besoins, d'abord, faut pas, quels sont les besoins de l'Église et de la société, et donc, du coup, quelle est la formation à donner aux prêtres? La Rome a, pendant plusieurs années, pendant des années, écrit un texte qu'on appelle la Ratio, un texte sur comment former un prêtre, et insistant beaucoup sur la formation initiale et la formation permanente, ce qui nous manque aussi souvent, parce que c'est essentiel. Et donc là, Rome a fait un texte qu'elle a envoyé à toutes les conférences épiscopales dans le monde, donc l'américaine, la suisse, chaque conférence est invitée à l'écrire. Après, c'est des allers-retours avec Rome, et là, ça y est, on finit par arriver sur un texte. Mais évidemment, il y a eu aussi des choses sur lesquelles on a résisté par rapport à des choses que nous demandait Rome, en disant ben non, nous on trouve que pour la France, on a besoin de cela. Et Rome vient nous dire ben, oui, in fine, c'est vous qui avez le dernier mot. Mais vous voyez, c'est pour du coup, à mon avis, tenir ce que je disais un peu au début de l'Église qui doit être en même temps universelle, c'est-à-dire des fondamentaux qui doivent être partagés par tous, ben, évidemment au niveau de la foi, mais aussi en termes d'une certaine pratique. En même temps, honorer des particularités nationales ou continentales qui font que être chrétien en Asie aujourd'hui, au Vietnam, on ne vit pas de la même manière que dans un pays, qu'en un pays européen.
C'est une toute dernière question, puis on va devoir vous laisser parce qu'effectivement, on va monter jusqu'à Saint-Léon et puis on a déjà passé un bon temps ensemble. Quand même. Mais il y a le développement qu'on voit de communautarisme un peu partout, d'identité communautaire assez forte. Et je pense que l'Église catholique est aussi touchée par ça. Est-ce que vous voyez ce développement d'un communautarisme catholique identitaire français qui se fermait, qui a tendance à se mettre dans une position de défensive et de bastion un petit peu, clairement chez les jeunes générations. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez quelles sont les modalités de réponse que vous pouvez apporter par rapport à ça, sachant que ces mouvements-là vont vous reprocher énormément à la Conférence des évêques de France, par exemple, d'être finalement des valets du pouvoir, d'être trop mou, l'Église était pas folle. Voilà. Cette problématique de durcissement identitaire au sein de l'Église, comment vous la...
Très bonne question. Là aussi, vous pourriez me dire ce que vous en pensez aussi, mais en tout cas, je vais répondre. C'est sûr que c'est le communautarisme ou l'extrémisme, peut guetter les communautés, chacun d'entre nous aussi, méfions-nous de en lisant aussi ce que parfois des paroles ou des actes nous pouvons faire. Alors, réellement, dans les communautés que nous voyons, c'est peut-être aussi ce que disent aussi certains musulmans ou certains d'autres communautés, mais toi, moi je les vois pas, ou je le sens pas. Alors, je pense dérive sectaire. Ça, il peut y en avoir, mais il peut y en avoir dans l'Église, mais souvent, enfin, c'est pas du tout pour zédouaner, mais souvent elles sont dans des lieux, justement, vis-à-vis desquels l'Église, en tout cas un diocèse, a peu de visibilité.
Ouais.
Voilà. Alors, on a bien vu ces dernières années de révélation de certains abus, alors ça peut être dans l'Église diocésaine, mais des dérives sectaires, ça, on y est très attentif. Il y a ici toute une équipe qui veille à cette question de dérive sectaire. Et voilà, on est dit, ça peut être aussi dans des groupes qui se réclament de l'Église, mais qui sont en dehors, qui vont se retrouver autour d'un gourou, autour dans un château, dans un bâtiment, vis-à-vis desquels on n'aura pas de lien, et parfois on n'a pas d'autorité. Et donc, là, pour des dérives sectaires, clairement, là en l'occurrence, on est bien content quand l'État peut, elle, intervenir. Parce qu'on nous dit, tiens, c'est l'Église catholique ou c'est les chrétiens qui sont là. Mais ben non, c'est pas nous, en tout cas. Nous, on les connaît pas. C'est pas pour mais voilà, c'est bien pour distinguer. Après, c'est vrai que je pense des jeunes, ils sont peut-être aussi des jeunes croyants aujourd'hui. Ça rejoint vraiment, à mon avis, la question du séparatisme, en tout cas du projet de loi. Je pense que moi je m'inscris complètement dans le cadre de la laïcité. En même temps, je ne suis pas sûr que c'est en ajoutant des lois, alors qu'un certain nombre de lois existent déjà. On sait aujourd'hui fermer des mosquées qui seraient extrémistes, on sait surveiller des gens. Enfin, là, je ne suis pas suffisamment juriste, hein, mais mon sentiment, c'est que le dispositif législatif est important, il est insuffisant, et ce n'est pas à toujours plus de lois qu'on réglera des questions, en particulier éducatives, et ça rejoint bien la question, à mon avis, du communautarisme. C'est en reconnaissant le rôle positif des religions qui sont reconnues et qui sont fréquentables, pour dire clairement les choses, hein, on est entre nous, qu'à mon avis, on honorera davantage ce que l'État souhaite, l'État qui est, mais la société ne l'est pas. Et c'est à travers de l'éducatif, à travers la reconnaissance des uns des autres, à travers de la compréhension, de l'estime de l'autre, et dans ce qu'il est aussi, qu'on évitera ces communautarismes. La reconnaissance. Et après, c'est vrai qu'on a des jeunes, de fait, qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, des jeunes, moi, qui m'impressionnent. Je ne me sens pas extrémiste, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que le terme liturgique, par exemple, un certain nombre de jeunes, peuvent être, entre guillemets, plus classiques dans l'expression de leur foi. Je trouve que c'est des jeunes qui s'inscrivent en même temps bien qui s'inscrivent bien aussi dans l'Église. Ouais.
C'est liturgique et ça va pas,
oui, puis
se développer sur d'autres secteurs de la vie où il faudrait se couper de tout le monde justement pour préserver une liturgie.
Ouais.
Alors, ça n'empêche pas le lien.
Ça n'empêche pas. Et sans doute que nous entendons, mais ça c'est vrai qu'à mon avis dans beaucoup d'autres domaines, on entend aussi parfois les extrémistes ou des gens un peu communautaristes qui peuvent être dans l'Église. Qui sont assez efficaces dans les réseaux sociaux ou dans les médias.
Bien sûr.
Et souvent, on n'entend pas les autres. Donc, il ne faut pas réduire aussi, à mon avis, l'expression de jeunes qu'on pourra voir peut-être très actifs sur certains réseaux, alors que d'autres seront tout aussi engagés dans notre Église, mais qu'on verra moins. Donc, c'est aussi une question de... Ça rejoint peut-être la question de la représentativité, ou en tout cas de la communication de ce que nous sommes. Et c'est vrai que parfois, on entend beaucoup les extrêmes ou des... Et parfois, on a envie de dire, mais là, il y a eux, et puis, bon, il faut des extrêmes, en tout cas, des gens qui ont des positions qui ne sont pas... Mais voilà, comment donner la parole aussi à d'autres? Et ça, c'est là que je pense que c'est important. Je suppose que c'est pareil dans beaucoup de vos métiers.
Merci beaucoup.
Merci à vous.